France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, ils sont venus se réchauffer à la flamme de l'actualité. Il va faire très froid cette semaine et la question d'une pénurie d'électricité se pose. Alors à France Info, nous avons tout prévu, puisqu'en cas de panne, ce sont les invités qui pédalent, voilà, hein, pour faire du courant, et ainsi assurer notre mission de service public, la continuité du service public, c'est normal. Voilà pourquoi il y a quatre invités aux informés de France Info, rien à voir avec des avis différents. Non, c'est juste pour qu'ils se relaient, afin de mieux assurer l'électricité. Voilà un secret de révéler. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Agathe Cagé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes politiste et présidente du think tank Carte sur Table. Vous éditez Génération 2040, manifeste à l'attention des candidats à la présidence de la République. C'est plein d'idées. Voilà, piochez, voilà, si vous voulez, si vous êtes candidat à regarder. C'est à trouver, bien sûr, en librairie. Michel Hurvoy de Ouest France, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Également, le comédien et humoriste Christophe Alévèque, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez plein de choses, hein. Vous avez notamment votre livre, Bienvenue à Weblamb, qu'on trouve aux éditions des Liens qui Libèrent, et vous êtes sur scène avec votre spectacle Ça ira mieux demain. Alors ce titre, on n'a jamais su, c'était vraiment très justifié.
Ça peut pas être pire.
Ça ira mieux demain, donc demain justement, on vous retrouvera à Toulouse, hein, à la salle Le Casino, et après-demain, 19 janvier, à Bordeaux, au Fémina. Et également ce soir, François Lorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, 4 débats dégommant le bonhomme de neige de l'actualité. À Davos, il fait froid, mais personne ne s'en inquiète. Donald Trump lance l'offensive contre l'Union européenne. Emmanuel Macron découvre la lutte des classes. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et si la vraie information du deuxième débat de la Belle Alliance Populaire était de nous avoir éclairci sur la renonciation de François Hollande? Maintenant, on sait pourquoi François Hollande n'a pas voulu participer aux primaires. C'était pour assister à la dernière du spectacle de Michel Drucker, hein. Une raison comme une autre. Après tout, c'est vrai que quand on a des places pour le théâtre, on s'en veut de ne pas y aller. Et puis, imaginez, le président de la République les revendre aux Noirs, ça aurait fait mauvais effet. Donc, pendant que les sept débattaient, François Hollande assistait à la dernière de Drucker avec la bénédiction, vous allez l'entendre, de son ancien Premier ministre, Manuel Valls.
Il est allé voir Michel Drucker, et il a eu raison. J'ai eu l'occasion de voir le spectacle de Michel Drucker il y a quelques semaines.
Mais c'est pas un peu vexant pour vous qu'avait été son premier ministre quand même? Il y a plus intéressant à faire que de regarder le débat de la primaire?
Je crois qu'il y a plus intéressant à faire que de parler de ça. D'abord, je ne doute pas un seul instant qu'il l'a revu. Aujourd'hui, il y a des moyens de revoir une émission. C'était même rediffusé un peu plus tard. Donc, il a dû se coucher tard après, quand il a regardé le débat à minuit.
Voilà, Manuel Valls, donc, ce matin sur Europe 1. Donc, pendant ce temps-là, le débat s'est déroulé un peu moins tranquillou que jeudi dernier, mais les spectateurs étaient moins présents que lors du deuxième débat de la droite. Europe, écologie, laïcité, immigration, de grands thèmes qui n'ont pas vraiment réussi à départager les concurrents. Agathe Cagé, pour vous, hier soir, vous l'avez regardé, j'imagine comme nous tous, est-ce qu'il y a un vainqueur finalement? Il y a eu un vainqueur pour vous hier, pour ce débat?
Je pense que le vainqueur hier de ce débat, c'est le débat lui-même.
Oui.
On a vu des candidats qui, hier soir, s'interpellaient, ce qu'ils n'avaient pas fait au cours du premier débat. On a vu des candidats qui pouvaient creuser pendant assez longtemps, notamment des questions importantes comme la question des migrants. On a vu des candidats qui étaient en désaccord sur des sujets fondamentaux comme le sujet de la laïcité. Donc je pense que même s'il y avait moins de téléspectateurs hier soir, c'était intéressant de voir que les candidats de cette primaire des gauches pouvaient réussir à créer un peu de tension entre eux, parce que c'est de la tension que je pense que naîtra davantage d'intérêt pour ces primaires.
C'est ça, François Rossival, finalement, c'est vrai qu'hier, on a commencé à voir des lignes se fracturer, notamment peut-être même un front anti-Valls, hein, clairement.
Oui, mais c'est effectivement, il y avait les fameuses deux gauches, elles étaient là. Il y avait six qui représentaient une gauche et Valls. Et finalement, la question qui se posait hier soir, me semble-t-il, c'était de savoir qui incarnait le mieux l'autre gauche. Puisque sur le podium, il y avait Valls, Montebourg, Hamon, dans quelque ordre que ce soit. La question, en effet, c'est contre Valls, est-ce Hamon, est-ce Montebourg? Je pense que hier soir, c'était très certainement Hamon, parce que Montebourg, quand même, jouait vraiment la grenouille de la fable. Enfin, il allait se faire éclater, là. Et à la fin, c'était vraiment un peu ça. En même temps, il y avait des personnages dits secondaires qui étaient tout à fait remarquables, et notamment François Drugy.
François Drugy sur le nucléaire. Christophe Alévèque, vous avez jeté un œil hier?
Oui. Mais non, d'abord, ça ne pouvait pas être pire que le premier débat, qui était quand même une purge. C'était un séminaire de comptables. Et encore, je pense qu'un séminaire de comptables est plus passionnant. Donc, je pense qu'il devrait directement commencer par le deuxième débat.
D'accord.
Comme ça, au moins, on gagnerait du temps. Mmh. Mais c'est vrai que quand je les voyais, c'est
vous avez vu des différences, justement?
C'est intéressant, vraiment. Et pourtant, je suis critique.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais la question que je me posais quand je regardais comme ça, je me disais, c'est vrai qu'avant, le Parti Socialiste appelait toujours à voter utile. Et là, je me dis, on va voter inutile. Mmh. Et il y a toujours cette idée derrière de se dire, parce que finalement, c'est le cinquième.
On est,
voilà, tout peut bouger, hein, mmh. Les lignes bougent, tout ça, voilà. Mais finalement, on se dit, ils sont arrivés quand même en étant, il y en a aucun qui sera au deuxième tour. Ils arrivent à monopoliser 3 émissions de télé, 3 débats.
Et même un quatrième entre les 2 tours.
Oui, un quatrième entre les 2 tours. Et ça, je trouve ça très fort, moi.
C'est ça.
Pour des mecs qui ne seront pas au second tour.
Bah, Michel Urvoy, c'est vrai qu'il y a toujours cette sensation, c'est vrai, de là, de se dire, bah, finalement, c'est vrai, quand on voit les enquêtes d'opinion, que la gauche ne serait pas forcément au second tour. C'est pour ça que ces débats.
Attendez,
aussi...
à la gauche, à quelle gauche?
Ah, bah, non, mais, quelle que soit la gauche, hein, quelle que soit la gauche.
Aujourd'hui, le vainqueur de la primaire.
Voilà. Oui. Et dans le vainqueur de la primaire, aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment, le sel.
C'est vrai que c'est jamais très mobilisateur pour choisir le perdant. Donc, ils ont beaucoup de mérite. Et je suis d'accord avec Christophe à l'évêque, le débat était de bonne tenue. Et on a vu des différences qui aident à se situer, à choisir pour ceux qui iront voter. On les avait déjà vues au premier débat. Sur le plan économique, il y avait quand même des différences aussi assez notables. Je crois que Manuel Valls reste encore le favori. Je dis encore parce que il me semble que il y a eu des échanges très nourris, très structurés de Benoît Hamon et de François de Rugy. Je ne dis pas que François de Rugy est en train d'apparaître parmi les outsiders. L'écart est trop loin, trop grand, il n'y a pas assez de temps, mais c'était intéressant.
Alors on va continuer à en parler, et notamment de Vincent Peillon, hein, qui fait des petits tacles. Voilà, de temps en temps à Manuel Valls. L'info à 20h10, c'est Pierrick Bonneau.
Tous les établissements scolaires fermés demain en Corse, à l'exception des écoles, collèges et lycées d'Ajaccio et Bastia. L'académie anticipe les fortes chutes de neige prévues cette nuit et demain sur l'île de Beauté. Les 2 départements corse sont en vigilance orange, neige et verglas, au moins jusqu'à demain soir. Les poids lourds ont l'interdiction de circuler en Corse du Sud depuis 19h. L'affaire des comptes cachés de Serge Dassault, de retour devant le tribunal correctionnel de Paris. L'industriel et sénateur Les Républicains n'étaient pas à l'audience, mais ses avocats ont soulevé pour lui des questions de procédure. Les juges ont jusqu'à mercredi pour y répondre. Accusé d'avoir dissimulé au fisc des dizaines de millions d'euros pendant 15 ans, le PDG du groupe Dassault est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale. Plus de 200 motards rassemblés tout à l'heure château de Vincennes à Paris. Manifestation contre l'entrée en vigueur des vignettes critères pour lutter contre la pollution dans la capitale. Depuis ce matin, tous les véhicules, y compris les deux roues, doivent arborer cet autocollant de couleur vert pour les plus propres à gris pour les plus polluants. Selon le ministère de l'Environnement, 2 500 000 vignettes ont déjà été demandées. Obligatoire donc depuis ce matin, elle vous coûtera 4 euros en moyenne. Et puis John Kerry juge déplacé les propos de Donald Trump sur la politique migratoire d'Angela Merkel. Le secrétaire d'État américain, toujours en exercice, estime que la chancelière allemande a été extrêmement courageuse sur la question des migrants. Dans une interview accordée à 2 quotidiens européens, le président élu a qualifié d'erreur catastrophique l'ouverture des frontières allemandes aux migrants en 2015.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Et oui, Pierrick Bonneau est à côté de moi maintenant. C'est ça qui est incroyable. Hein. Voilà, ça fait un voisin. Je ne suis plus seul face à cette caméra et ce micro. Allez, on parle justement de cette primaire, deuxième débat qui avait lieu hier soir, un peu moins suivi que la primaire de la droite. Et donc, alors, il y a eu des petits échafaudants, on va dire ça comme ça, notamment Vincent Peillon, et oui, l'un des acteurs du seul moment un peu tendu à propos de l'accueil des migrants. Il s'adressait à Manuel Valls et voilà ce qu'il lui dit, Vincent Peillon. Pas du tout, en fait, je croyais qu'on avait donc ce son. Et en fait,
décidément,
non.
c'est pas la période de Vincent Peillon.
Non, je ne sais pas ce qui se passe, non, pas du tout.
Voilà. Il y arrivera
alors,
pas.
Alors, Vincent Peillon,
pardon.
Non, mais je vous en prie, François, non, mais justement, alors, Vincent Peillon, je vais le redire, parce que
c'était
voilà.
C'était son petit côté Jean-François Copé.
Exactement, alors, en fait, Vincent Peillon qui a accroché
oui,
Manuel Valls, notamment sur ses déclarations à Munich, où il reprochait à Angela Merkel d'avoir ouvert la porte aux migrants.
Oui, mais à Munich, dans une déclaration qui était au sein d'une grande conférence sur la sécurité. Donc, c'était un débat tout à fait passionnant, d'ailleurs, de Valls, dans lequel il avait dit des choses. Et alors, de là à ce que Peillon l'accuse de ne pas exposer la politique de la France, la diplomatie de la France, c'était assez décalé de la part de Peillon.
Voilà, on a vu deux choses. C'est-à-dire que Manuel Valls a dit que lui, il répondait au nom de la France, et Vincent Peillon disait, mais les Français, finalement, sont beaucoup plus accueillants que ce que vous voulez bien dire.
Bon, on a vu un petit combat de boxe entre les deux hommes, ce qui était intéressant, parce qu'on a des candidats qui ont fait le pari de s'inscrire dans un débat, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats, donc on attendait deux qui débattent entre eux. Donc c'est des moments un peu de tension aussi qui retiennent un peu l'intérêt, c'est ce qui avait manqué, hein, c'est ce qu'on disait au premier débat. Et là, on a vu ça apparaître, et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. On a quand même sept candidats qui, aujourd'hui, hein, on le disait tout à l'heure, ne sont pas certains d'être qualifiés une fois qu'ils auront été désignés à l'issue de cette primaire pour le second tour. On peut faire le pari un peu dingue, qu'il y aura peut-être une autre dynamique qui se créera à la fin de cette primaire, donc il faut qu'ils montrent dès à présent tout ce qu'ils sont dans le ventre, et ça ils peuvent le faire que s'ils débattent entre eux et pas s'ils s'adressent uniquement à la caméra.
Mais Michel Urvin.
Cette séquence est extrêmement intéressante parce qu'elle illustre la difficulté qu'il y a à passer du statut de Premier ministre à candidat, c'est-à-dire qu'il y a cette obligation d'assumer ce qui a été fait pendant les deux années précédentes s'agissant des migrants, alors que les autres candidats qui n'ont pas à assumer, ou moins en tout cas, cette politique-là, peuvent se permettre d'afficher plus de générosité, de mieux coller aux attentes de l'électorat supposé de la primaire.
Et c'est peut-être là où on a vu, quand on disait Vincent Peillon, candidat anti-Valls.
Voilà. Vraiment, donc ça devient une ligne de fracture.
Fracture. Christophe Lévesque.
Ouais, enfin, on parle de combat de boxe.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est gentil. Quand on sait à quel point ils se détestent, c'est très, 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 très gentil. Mais moi, je vois pas le... Enfin, peut-être que je suis de mauvaise foi, mais ça m'arrive. Mais moins que, mais ça m'arrive quand même. Mais je vois pas des candidats à la présidence de la République. Moi, je vois quelqu'un qui veut être premier secrétaire du Parti socialiste.
C'est souvent le reproche qu'on fait à cette,
après la déroute annoncée. Ils sont en train de. C'est pour ça que je trouve que ça manque dans l'ensemble, hein, bien que le deuxième débat était vachement bien, ça manque un petit peu de hauteur d'esprit. Ça manque de lumière, ça manque un petit peu
de souffle,
de grandeur. J'ai l'impression que c'est des mecs en fait qui se battent pour avoir la tête du Parti socialiste, enfin de ce qu'il en restera après. Après le premier tour, enfin.
C'est intéressant. C'est tout à fait juste. Il n'y a pas de charisme mitterrandien parmi les sept personnages qu'on a vus l'autre soir. Mais c'est intéressant du point de vue de la recomposition que ça annonce, parce que selon que ce sera l'un ou l'autre, le résultat, les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à aller voter de la part de l'électorat de gauche. Si c'est un Manuel Valls qui gagne et qui arrive très loin derrière d'autres candidats, Emmanuel Macron notamment, ça posera la question de ralliement, de rapprochement plutôt au centre. Si c'est un Benoît Hamon ou un Arnaud Montebourg qui gagne, ça obligera à regarder dans une autre direction. Il y a de la recomposition dans l'air.
Alors juste ça, sous son air d'humoriste, Christophe vient de dire quelque chose de très 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 bien analysé.
Ah, bah, merci.
Mais bien sûr, nous ne sommes pas dans une compétition présidentielle avec ce type de débat, c'est clair. En revanche, on est dans une compétition, oui, pour la suite du Parti socialiste.
C'est pas
le Parti socialiste ne va pas disparaître.
C'est pas certain que qualitativement, ces deux débats de la gauche, même s'ils ont été un peu moins regardés, étaient de moins bonne facture que les débats de la droite. Pourtant, on n'a entendu personne dire que les débats de la droite étaient des débats pour prendre la tête du Parti des Républicains. Je pense qu'on fait un procès en attention aux candidats socialistes, parce que certains d'entre eux ont été à la tête d'un certain nombre de courants socialistes. Je pense qu'on peut leur donner aussi une certaine crédibilité dans leur volonté d'être véritablement candidat et d'aller gagner cette présidentielle.
Je termine ma phrase pour dire qu'ils savent tous très bien qu'ils ont 9 chances sur 10 de ne pas être qualifiés, sauf dans une hypothèse que vient d'évoquer Michel Urvan, on y reviendra, de ne pas être qualifiés. Et dans cette hypothèse-là, effectivement, la seule chose qui les dirige, qui les guide, c'est vont-ils prendre le Parti socialiste.
Dans le dernier sondage, Trump avait 9 chances sur 10 de ne pas gagner. Il a pris la tête des États-Unis.
Parce que le Parti socialiste, ça n'est pas seulement à la présidentielle, pour le moment il en est exclu, c'est aux législatives. qui va conduire la campagne des législatives.
Christophe Lévesque.
Oui, alors pour revenir sur Trump, si Trump s'était présenté en France, il aurait perdu, puisque au nombre de voix, il aurait perdu. C'est le système américain qui lui a permis de gagner.
Grands électeurs.
Sinon, moi, ce que je leur reproche surtout, c'est pas trop ça. C'est que ils sont incapables, mais tous, de rassembler. Alors, parce que de toute façon, c'est et celui qui a vraiment. Quand je parle de hauteur, quand je parle, mais c'est même d'intelligence politique, d'intelligence tout court. C'est-à-dire celui en imaginant qu'ils peuvent très bien. Moi, je suis d'accord avec vous. Ils peuvent très bien aller au deuxième tour. Maintenant, on ne sait plus maintenant. Hein. Et vous voyez, bah, il neige à Bastia et puis il neige pas en montagne. Hein, ouais, donc, on va savoir. Et, mais est-ce qu'ils pensent au deuxième tour? Il y en a pas un.
Mais non.
Voilà. Alors, et c'est là où la primaire de droite était, je pense moi, aussi mauvaise, voire pire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ils se sont trompés de candidat déjà. C'est-à-dire, ils ont choisi un mec qui ne rassemble pas. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Si tu trouves que je fais trop long, c'est ça.
Non, pas du tout, Christophe.
Mais si tu n'arrêtes pas de me faire des signes comme ça, on dirait le cabage devant Georges Marchais. C'est quand même hallucinant.
Qui est Georges Marchais, qui était le cabage, je ne sais pas.
C'est pour ça. Bon, je pédale, continue.
Michel Durand, juste une chose justement à propos de ces alliances. Hier, on leur a posé justement cette question. On leur pose toujours cette question par rapport au fait, éventuellement, est-ce que vous pourriez rallier Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Et à un moment où cette question va se poser, on va parler dans un instant d'Emmanuel Macron, mais cette question va se poser. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore le PS qui dicte.
Tout alors que pour l'instant, ce sont les autres. Cette question présente à l'esprit, évidemment. Personne ne peut y répondre, évidemment. On ne va pas répondre avant le premier tour, ni avant le second. Donc, mais elle va se poser le jour où le vainqueur de cette primaire sera entre 5 et 12% d'intention de vote à la présidentielle, et que Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon seront au double.
C'est ça. On va suivre. En tout cas, on va parler dans un instant d'Emmanuel Macron qui était dans le Nord ce week-end, qui est en Bretagne hein, d'ailleurs, à Quimper ce soir. On en parle dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
L'Union européenne n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire. La réponse sèche de François Hollande ce soir à Donald Trump. Dans une interview à deux journaux européens, le président élu des États-Unis a critiqué la construction européenne et l'Alliance Atlantique. Sur l'OTAN, Hollande s'est adressé directement à Trump. Non, l'organisation n'est pas obsolète. La plupart des jeunes arrêtés après le saccage de plusieurs halls d'immeubles à Juvisy-sur-Orge ont été relâchés. Ce soir, seuls 2 des 11 gardes à vue se poursuivent. Les enquêteurs analysent notamment les images de vidéosurveillance prises dans la nuit de samedi à dimanche. La piste d'un règlement de compte est toujours privilégiée. Des halls d'immeubles, mais aussi des voitures et un appartement ont été entièrement saccagés. La mort d'un Palestinien dans des affrontements avec l'armée israélienne au sud de Bethléem, en Cisjordanie occupée. Ce jeune de 17 ans faisait partie d'un groupe d'émeutiers quand il a été visé par la police des frontières, selon les autorités israéliennes. Depuis le 1er octobre 2015, les violences dans les territoires palestiniens et en Israël ont coûté la vie à 249 Palestiniens et 40 Israéliens. La Corse, placée en vigilance orange, neige et verglas, au moins jusqu'à demain soir. Les préfectures de Corse et Corse du Sud et de Haute-Corse lancent des appels à la prudence. Limitez vos déplacements et équipez vos véhicules si vous habitez sur l'île. La neige risque de tomber abondamment cette nuit et demain. Alerte en vigueur au moins jusqu'à mercredi minuit. Les établissements scolaires seront fermés demain en Corse, sauf à Ajaccio et Bastia.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Agathe Cagé, politiste et présidente du think tank Carte sur Table, Michel Hurvoy de Ouest France, le comédien et humoriste Christophe Alévèque et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est donc à Quimper. On s'est attendu à tout hein, aujourd'hui, à des sorties comme « Tiens, il pleut pas » ou « Ah, je pense à ces démunis tombés dans la crêpe hein, » parce que en fait, rien. Parce que c'est vrai que l'ex-ministre de l'économie s'est fait une spécialité des sorties blessantes. Il les traite pour les ouvrières des abattoirs GAD. Le fameux « Vous me faites pas peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et donc ce week-end, en visite dans le Pas-de-Calais, il a mis en avant l'alcoolisme et le tabagisme, syndrome de la misère sociale d'une partie de la région. Plus, une autre sortie sur la paresse de certains chômeurs, on appelle ça un combo ou alors un 6-0-6-0-6-0 pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Il arrive dans le Pas-de-Calais et il leur dit « Ah bah oui, il y a le tabagisme et l'alcoolisme, il manque plus que l'inceste et comme ça le tableau serait complet. » Il s'en va aux Antilles et en cours de route il dit « On va s'expatrier ». Enfin, cet homme vit ailleurs, je ne lui en veux pas, hein. Il peut croire ça. Mais attendez, Il vit tellement ailleurs qu'il parle aux gens comme à des domestiques. Quand il fait son meeting à Paris, il se met à hurler pour dire « maintenant vous allez militer », etc. Moi, je parle jamais aux gens comme ça, mais il y en a comme ça. Et quand il arrive à Lille, il leur dit...
Il vous arrive d'élever la voix quand même.
Oui, mais je ne me trompe pas de cible, moi, quand j'élève la voix. Hein. Je me fâche pas avec les pauvres, comme lui il a fait, ou les gens qui sont dans la difficulté.
Jean-Luc Mélenchon, hier, donc, sur RTL, certains élus parlent de mépris de classe, Christophe Lévesque.
Bah, c'est pas très bien. Alors, en voilà un qui ratisse large. Ça, c'est
Emmanuel Macron.
C'est Emmanuel Macron. Donc là, il y a le côté réac. Là, oui, les chômeurs sont des feignants. Dans le Nord, c'est des alcooliques et des chômeurs. Et puis après, il peut dire l'inverse. Mais comme il est ni à droite ni au gauche, c'est l'arrêt, Macron. Donc, je pense qu'il essaye de... Pour l'instant, c'est assez touffu et ça devrait pas s'arranger. Le gros problème, alors, moi, que je vois avec cet homme, que je respecte...
Mais ça, c'est c'est de base que je respecte.
Que je respecte. Oui. Voilà, quelqu'un qui est marié bien avec sa mère, c'est donc sûr. Assez rare donc pour être salué. Et c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il rende des comptes. Parce qu'il a quand même des financiers derrière. Il n'a que des financiers derrière. Il organise quand même des repas à 7 000 euros à Londres, etc. Donc, à un moment donné, ces mecs-là vont lui dire « Bon, Coco, si jamais il est élu, hein, maintenant, il faut renvoyer l'ascenseur. » Donc, c'est ça qui me fait un petit peu peur sur son indépendance.
Lui, justement, revendique un parler vrai. On l'a souvent entendu, le fameux parler vrai dans la classe politique française. Ça veut dire quelque chose ?
Non, enfin, lui, il se positionne, il se permet ce genre de choses au nom de la nouvelle politique décomplexée. C'est juste de la nouvelle politique déconnectée. Hein. Comme dit Christophe, la chose fondamentale et de base qu'on peut tous attendre d'un homme politique, c'est le respect. Il fait preuve d'un mépris hallucinant quand il va insulter les personnes qui vivent sur ces territoires du Nord et du Pas-de-Calais, dont je pense tout le monde sera d'accord pour dire qu'ils n'ont pas culturellement des problèmes d'alcoolisme ou de tabagisme. En effet, on a deux territoires qui sont ravagés par la précarité économique et la précarité sociale. C'est sans doute pas en prenant l'ubérisation de l'économie, comme le fait Emmanuel Macron, qu'on résoudra les problèmes de ces deux territoires. Et là, il a fait preuve, pour moi, d'un mépris hallucinant. Mais c'était assez charmant ce week-end d'apprendre que finalement, au titre des fameux ralliements, Emmanuel Macron avait sans doute le groupe des ultras du PSG de leur célèbre banderole insultant Litchi.
C'est ça. Justement, Michel, on voit. Alors, aussi, quand il dit « je parle vrai », il dit ça à un endroit bien particulier, géographiquement parlant en France, c'est bien sûr le nord de la France, aujourd'hui, et notamment à Hénin-Beaumont, où il s'est déplacé, mairie Front National. Le Front National fait des gros scores dans cette région. Est-ce que c'est un signal ? Est-ce que finalement, Emmanuel Macron, il peut inquiéter aussi le Front National ?
Bien sûr. Oui. Bien sûr, il y a des gens de tout l'éventail politique qui s'intéressent à lui. Je conçois que la manière de dire les choses n'est pas très habile, pas très diplomatique, un peu brutale. Mais faire un lien entre la désespérance et l'alcoolisme, faire un lien entre le niveau de formation ou l'illettrisme et la difficulté à être mobile économiquement et socialement, ça n'est pas du tout idiot. Donc après, il y a la manière de dire les choses, probablement de les appréhender. Et je pense que disant ce qu'il dit, il intéresse un spectre très large. Et je m'interroge en ce moment sur la propension qu'ont les acteurs politiques et même les observateurs à nier le phénomène Macron. Moi, je dis attention, à trop le nier, on va avoir des surprises. Ils vont avoir des surprises. Il y a deux dynamiques aujourd'hui dans la société politique. Il y a une dynamique Macron et une dynamique Mélenchon. Ce serait bien de ne pas les occulter. Il y a une incapacité à voir ces propositions. Par exemple, j'entends des critiques de propositions qui manifestement n'ont pas été lues, n'ont pas été entendues.
Emmanuel Macron entretient le flou, j'entends des choses dites sur ces meetings
de la part de gens qui n'y sont pas allés. Donc, il faut parler de ce qui est.
Alors, justement, on va en parler dans un instant de ces propositions, notamment sur l'éducation qu'il a faite à Lille. François Orcival.
Oui, je dois dire que, effectivement, les propos qu'il tient, qui sont souvent brutaux, en tout cas ce que l'on retient, en ce qui concerne ce que Mélenchon appelle donc les cibles de son mépris de classe et prendre les gens pour des domestiques, etc., tout ceci n'a en rien et à aucun moment cassé la dynamique qui est la sienne. À Lille, il a fait un meeting que les socialistes et toute la gauche ne savent plus faire, comme il l'avait fait à Paris, à Strasbourg, etc. Donc, il a créé, en effet, une dynamique, malgré tout ce qu'on dit de lui. Et Mélenchon, à cogner aussi fort qu'il l'a fait, désigne quand même un ennemi. Et nous allons voir maintenant, dans les semaines qui viennent, à mesure qu'il va être obligé de se dévoiler, parce qu'il faut bien dévoiler un vrai projet avec des propositions concrètes. Pour le moment, c'est de la modernité, de langage, point. À partir du moment où il va se dévoiler, que sera la réaction du public?
On va continuer à en parler dans un instant. On parlera également de Donald Trump, qui a lancé une offensive contre l'Europe. On parlera également de Davos, cette charmante station suisse. Voilà la suite des informés de France Info.
Porte blindée, tu me réponds?
Point fort fichet. Ma sœur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage.
Eh bien, du 17 janvier au 4 février, ils offrent la TVA sur toutes les portes fichettes d'appartements et de maisons.
Je fonce!
Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Et là, Jules m'a dit:
papa, t'es pas très mode.
Oh, et t'as fait quoi?
J'ai acheté une voiture.
Mais non.
Si,
un Mini Clubman.
Et alors?
Alors il a dit: je peux être à la mode comme toi, papa?
Mini Clubman, la compacte familiale pour les pères qui ont du style. Découvrez l'édition Hyde Park avec notamment GPS, écran 6,5 pouces, affichage tête haute et toit ouvrant. À partir de 340€ par mois, 36 mois, sans apport, entretien inclus.
Méné.
Exemple pour un Mini Clubman 116 chevaux en location longue durée, valable jusqu'au 31 mars 2017. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr.
France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques qui propose aux patients et aux professionnels de santé la plus grande armoire à pharmacie du monde.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Attention, neige en Corse, vigilance orange jusqu'à demain soir. On attend des averses de neige jusque sur le littoral. Plus nombreuses pour la journée de demain avec beaucoup de vent. Prudence aussi sur les Pyrénées. Le risque d'avalanche reste très élevé. On aura pas mal de nuages demain sur les autres massifs aussi avec quelques flocons. Ailleurs, on profitera du soleil. Il faudra quand même attendre que les nuages bas se morcellent entre le nord-ouest, l'île de France, le nord-Pas-de-Calais. Côté température, c'est la dégringolade. En plus, le vent sera sensible partout et accentuera la sensation de froid. Des gelées généralisées le matin, souvent moins 8 à moins 2 degrés. L'après-midi, seulement moins 2 degrés à Mulhouse, Aurillac, Grenoble, moins 1 à Lille, 0 à Bourges, 1 à Paris, un peu plus sur l'ouest et en Méditerranée.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et la fois 20h30, c'est Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir, au lendemain des déclarations de Donald Trump sur le Brexit, l'OTAN obsolète ou encore la politique migratoire d'Angela Merkel qui l'a jugée catastrophique, eh bien François Hollande lui répond ce soir: l'Europe, dit le chef de l'État, n'a pas besoin de conseils extérieurs pour dire ce qu'elle a à faire. L'Europe, poursuit François Hollande, sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique. Elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Quant au chef de la diplomatie de l'administration Obama, John Kerry, il est lui aussi critique envers le futur chef de la Maison-Blanche. Il ne devrait pas se mêler de la politique intérieure de pays tiers de façon si directe. Donald Trump prêtera serment ce vendredi. Le froid s'installe demain matin, les températures seront négatives au réveil. Dès ce week-end, le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait demandé aux collectivités locales, aux services de l'État et aux associations de tout mettre en œuvre pour les sans-abri. Il y aura de la place pour tout le monde, assure ce soir Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur.
Moi, je ne veux absolument aucune personne laissée sur les trottoirs, laissée dans des campements de fortune dans cette période. Et donc, je demande aux policiers de continuer à faire en sorte, avec les maraudes sociales qui vont s'intensifier, avec les sapeurs-pompiers, avec tous les services de sécurité, de la gendarmerie qui seront sur le terrain, avec les citoyens. Moi, je ne fais pas d'appel aux citoyens demain pour développer les solutions d'hébergement. Nous avons dimensionné l'offre aujourd'hui pour accueillir tout le monde, migrants ou personnes sans abri. Par contre, j'attends de nos concitoyens qu'ils soient vigilants sur ce qui se passe autour d'eux, qu'ils puissent nous alerter, qu'ils puissent appeler le 15 si jamais il y a une situation d'urgence, qu'ils puissent appeler le 115 pour que nous puissions mettre à l'abri Tout a été dimensionné pour que nous ne connaissions pas l'accident.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, déjà cette nuit, la neige tombe en abondance sur les reliefs de la Corse. Demain, il n'y aura pas de transport scolaire dans l'île. Les écoles resteront fermées, à l'exception des établissements scolaires de Bastia et d'Ajaccio. Les deux départements de l'île ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Après les automobilistes dimanche, ce sont plus de 200 motards en colère qui se sont rassemblés à Paris aujourd'hui pour protester contre les restrictions de circulation. Avec l'entrée en vigueur ce lundi des vignettes critères pour définir le niveau de pollution des véhicules, les deux roues motorisées sont également concernées. Mais le président de la Fédération française des motards en colère rappelle qu'ils roulent à l'essence, qu'ils n'émettent pas de particules et que ces deux roues motorisées sont des véhicules de faible gabarit. Il y aura des élections anticipées le 2 mars prochain en Irlande du Nord. Le gouvernement de coalition mis en place depuis les accords de paix se déchire. La Coupe d'Afrique des Nations, encore un match nul, mais pas de but, 0-0 tout à l'heure entre la Côte d'Ivoire et le Togo. La deuxième rencontre de la journée oppose en ce moment la République démocratique du Congo au Maroc. Et là aussi, il y a 0-0. Le Vendée Globe, cela fait 44 jours qu'il est en tête. Armel Lecléache vit une dernière semaine de course sous la menace d'Alex Thompson. 74 000 d'écart seulement entre les deux monocoques. Autant dire que l'arrivée devrait se jouer dans un mouchoir de poche jeudi au Sable d'Olonne. 20h33 sur France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés et également sur le canal 27 de la TNT. Alors eux, ils sont frais et dispo, hein, voilà. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Agathe Cagé, politiste et présidente du think tank Car sur Table, Michel Urvois de Ouest France, également le comédien et humoriste Christophe Alévèque et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Juste avant de parler de Donald Trump, encore un petit mot à propos du déplacement d'Emmanuel Macron à Lille ce week-end. Agathe Cagé, vous travaillez beaucoup sur l'éducation. Ouais. Et Emmanuel Macron, justement, a fait des propositions en termes d'éducation. On dit souvent qu'on ne connaît pas ses propositions. Alors, il a beaucoup parlé, donc, notamment priorité aux primaires. Il a parlé aussi plus d'autonomie aux écoles. Il a également maintien des classes prépa et des grandes écoles puisque le système marche. Finalement, de quoi satisfaire la droite et la gauche? C'est toujours pareil, finalement, Macron, donc à droite et à gauche.
C'est toujours pareil. Emmanuel Macron essaie de ratisser assez large. Et ce qui va être intéressant, c'est quand même de le mettre en confrontation avec d'autres personnes, hein, sur un certain nombre de ses propositions. Emmanuel Macron, hier, annonce 12 000 créations de postes sur 5 ans dans le premier degré comme une proposition phare. Ouais. C'est la moitié des postes qui ont été créés sur la période 2012-2017. Une fois qu'on le met face à cette contradiction, on pourra débattre avec lui de la priorité qu'il va donner à l'école. Mais moi, il y a surtout une phrase d'Emmanuel Macron qui m'a marqué hier dans ses propositions sur l'éducation. C'est le fait qu'il fait une équation extrêmement rapide. Élèves en difficulté à la fin du CM1, CM2 égale futur décrocheur égale futur délinquant. On connaissait Nicolas Sarkozy, chantre du déterminisme social. Maintenant que Nicolas Sarkozy est écarté de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron semble se positionner sur ce créneau.
Ouais, Christophe Lévesque.
Ouais, oui. C'est terrible, c'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Mince. Et ce qui est fou, c'est que moi, plus j'entends Emmanuel Macron, plus j'ai envie de boire. Et c'est terrible parce qu'il fait l'effet inverse de ce qu'il recherche, à mon avis. Lui qui n'aime pas l'alcool. Comment peut-on dans un discours, mais là c'est vraiment typique ce qu'il a dit sur l'éducation, dire tout et l'inverse? C'est-à-dire j'enfonce des portes ouvertes, c'est-à-dire en gros, alors je veux que l'école, bon bah ce soit mieux, voilà. Et puis ce qui est important, bon bah c'est qu'on apprenne bien à lire et à écrire. Et puis que les élèves, bah, ils décrochent pas. D'accord, ok.
Non, mais je pense que...
Non, mais Christophe.
Et l'autonomie des écoles, je crois que tous les candidats l'ont à peu près dit. Hein.
C'est exactement. C'est-à-dire que les sept ont dit les mêmes perles pendant les trois heures de débat de
Alors
la primaire.
Alors en quoi il est différent des
autres? Mais il refuse le débat pour le moment.
Il est différent parce qu'il refuse le débat. Voilà.
C'est ça, voilà. Michel Urvois.
Non, il refuse la primaire, c'est clair. Oui. Mais ce qu'il a dit hier, c'est que il y a 6000 postes qui sont déjà prévus dans le plan en cours de déploiement. Il en met 6000 de plus pour diviser par deux le nombre d'élèves dans les classes de CP et de CE1. C'est précis? Oui. Non? Enfin, je sais pas. Moi, je regarde factuellement les choses. Après, je veux bien qu'on fasse tous les commentaires et tout ça. Mais vous allez m'amener à défendre Emmanuel Macron.
Ah ben ça y est.
Mais non, mais ça moi, je défends.
Fait. Vous êtes un adepte.
Je défends la rigueur. C'est
oui,
tout. Donc, soit Macron ou un autre, j'aime bien qu'on dise des choses alors, factuellement vérifiées.
Non, mais factuellement, c'est voilà. Intéressant de s'interroger sur la taille des classes, notamment, par exemple, en éducation prioritaire, pour savoir si le nombre d'élèves par classe n'est pas trop élevé. Après, il faut savoir sur quelle base on fait les propositions.
Voilà.
Aujourd'hui, en éducation prioritaire, vous aurez toutes les écoles.
C'est comme
qui
dans
vont
le débat d'hier soir, il y a eu des choses
de
actuellement
donc, en éducation
sur,
prioritaire.
Sur les réfugiés, c'est pareil.
En éducation prioritaire, vous aurez en 2017 déjà deux enseignants avec le plus de maîtres que de classe. Donc Emmanuel Macron annonce quelque chose qui existe déjà. Il dit il faut diviser par deux la taille des classes en CP et en CE1. Dans les écoles, vous avez déjà des classes à 15 élèves, vous allez mettre 7,5 élèves par classe. La difficulté, c'est que comme aujourd'hui, il n'a pas de contradicteur. On ne peut pas creuser avec lui les propositions. Donc il peut dire très rapidement autonomie des établissements, de quelle autonomie parle-t-il ? On ne sait pas. Il peut dire très rapidement, il ne faut surtout pas toucher aux grandes écoles. Oui, c'est très facile, ça correspond à une partie de son électorat, et surtout ça correspond à ce que souhaitent ses financeurs. Il peut dire, bien sûr, il faut lutter contre le décrochage. Qui aujourd'hui va dire, il faut que la France demain ait plus de décrocheurs ?
Non, oui.
Emmanuel Macron, on a besoin d'entendre mais la contradiction face à lui pour
ça,
savoir quel est le véritable fond de ses propositions.
Et ça vaut pour tous les candidats. Oui, parce que j'entends aussi des choses... comment dire, des critiques qui sont faites à François Fillon, dans l'autre camp, qui factuellement ne sont pas mieux assises que celles-là. Quand on parle de 500 000 fonctionnaires qu'il supprimerait, c'est faux, bien c'est sûr. Pas ce qu'il a dit. Il a parlé d'emploi public, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je dis. Moi j'aime bien alors, qu'on bien débatte, sûr. Qu'il y ait de la contradiction, qu'il y ait tout à fait c'est nécessaire, c'est vital pour la démocratie.
Mais pourquoi
mais de préférence,
finalement, ce que disait Agathe Cagé, c'est juste pourquoi finalement personne aujourd'hui ne porte le fer Emmanuel Macron, c'est-à-dire parce qu'on ne veut pas lui donner trop d'importance ?
Oui, vous posez une question difficile, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, il met les autres aussi en valeur. Il les met aussi en valeur. Mélenchon en profite de Macron. Et il est utile à Fillon, Macron. Il est aussi utile à Fillon. Parce que dans cette compétition aujourd'hui, on voit bien que c'est une compétition, là encore, à trois, avec, à la fin, deux qualifiés. On ne parle pas de Marine Le Pen.
Ouais.
On ne parle pas de Marine Le Pen. Mais... Et il est évident qu'elle aussi y pense. Donc, pour le moment, il ne l'attaque pas parce qu'il dit surtout beaucoup de choses qui sont relativement banales.
La droite a commencé à l'attaquer samedi dernier parce qu'autour de François Fillon, il y en a un certain nombre qui commencent à se dire qu'ils pourraient se faire doubler aussi.
Ouais. Donc, Christophe Lévesque, justement, sur Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il a ses signatures ?
Ah, pas encore. Alors, on ne sait pas. C'est pas, de toute façon, ça, c'est pas encore. Ça,
je crois
mais que. Mais non, mais parce que c'est.
Non, juste.
Si ça se trouve, on est en train de parler d'un truc qui n'arrivera même pas.
Mais c'est vrai pour tous.
Oui.
Non. On sait très bien que le candidat du Parti Socialiste aura ses signatures.
Oui.
Parce que j'ai entendu à un moment donné que un élu socialiste qui donne sa signature à Macron serait viré.
Oui, mais attendez, ça c'était avant.
C'était
avant le drame.
C'était avant le drame, d'accord. Parce que peut-être que les mêmes vont se rallier à lui.
Voilà, et c'est la question que je me posais après, mais on pourrait peut-être y répondre. Parce qu'il va faire quelle majorité ? C'est toujours pareil, qu'est-ce qu'il va faire ?
On aura le temps d'en parler dans d'autres émissions, puisqu'on va parler d'Europe dans un instant et de Donald Trump. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Le Conseil d'État saisit le Conseil constitutionnel à propos de l'état d'urgence et plus précisément la prolongation des assignations à résidence. La dernière loi de décembre 2016 prévoit que ces assignations peuvent durer plus d'un an. La plus haute juridiction administrative française met en doute ce soir la légalité de cette mesure après avoir été alertée par un ancien djihadiste. Le Conseil constitutionnel a 3 mois pour se prononcer. Tous les établissements scolaires fermés demain en Corse, à l'exception des villes d'Ajaccio et Bastia. L'Académie anticipe les fortes chutes de neige prévue cette nuit et demain sur l'île de Beauté. Les deux départements corse sont en vigilance orange, neige et verglas au moins jusqu'à demain soir. Les poids lourds ont également l'interdiction de circuler en Corse du Sud depuis 19h. Si Londres veut négocier un accord avec Washington, elle doit attendre que le Brexit soit effectif. L'avertissement ce soir de Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Pas question tant que le Royaume-Uni est dans l'Union. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a annoncé vouloir conclure très rapidement un accord. accord commercial avec les Britanniques. Au moins 5 morts, dont 2 Canadiens, un Italien et un Colombien au Mexique dans une fusillade. Le tireur a ouvert le feu dans une discothèque de la cité balnéaire de Playa del Carmen, à l'est du pays, c'est près de Cancun. 4 personnes ont été arrêtées selon les autorités qui parlent d'une dispute entre particuliers. On ne sait pas si le tireur est toujours dans la nature ce soir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. On va parler maintenant d'un homme riche, hein, très riche, hein, qui aime bien faire la leçon aux autres. Et lui, alors, il aimerait bien hein, qu'on lui donne des conseils, mais c'est pas de sa faute. Il est génial. Voilà. Bon, voilà. Hein. Y aura-t-il un jour sans Donald Trump? On pouvait vous dire d'avance, bah non, c'est non. Hein. Vendredi, Donald Trump sera officiellement intronisé 45e président des États-Unis. Et en attendant, il se prépare notamment vis-à-vis de l'Europe, accordant une interview aux journaux allemands et britanniques Bild et The Times. Le milliardaire a salué le Brexit en encourageant d'autres pays à faire de même avant de critiquer Angela Merkel pour sa politique d'accueil des réfugiés, en déclarant que la chancelière avait fait une erreur et terminant par une analyse assez fine en fait. Les gens ne veulent pas que d'autres gens viennent dans leur pays et les dérangent. Ça, c'est Donald Trump. Et puis, une petite couche contre l'OTAN derrière tout ça. Bref, la chancelière a décidé de lui répondre d'une manière assez digne, Angela Merkel.
Il a exposé sa position, mais nous la connaissions déjà depuis un moment. Ma position est connue également. La lutte contre le terrorisme est un grand défi pour tous les pays. Je pense que nous, les Européens, avons notre destin dans nos propres mains. Je vais continuer de m'engager pour que les 27 États membres travaillent ensemble vers l'avenir.
Voilà, chancelière allemande, Angela Merkel. Alors, en une...
Plus ça va, je j'étais pas fan au départ de Angela Merkel. Mais plus ça va, plus... Je la trouve absolument magnifique.
Très bien.
Sa façon de répondre comme ça, je ne sais pas si dans le terrorisme, elle englobait Trump. Mais c'est une chance. Quand on entend Trump, l'Europe qui marchote, hein, on peut bien le dire, hein, y a quand même beaucoup de problèmes. Hein. Je pense que c'est une chance pour l'Europe, Trump, parce que ça va pousser
ressouder,
tout le monde à se ressouder. C'est un peu comme dans le sport, là, quand quelqu'un est attaqué comme ça, ça ressoude
alors
tout
ça,
le monde.
Ça, c'est dans le rugby, mais alors justement, est-ce que François Orcival. Finalement, les déclarations de Donald Trump, là, c'est pas devenu un fantasme pour tous les eurosceptiques, finalement? Parce qu'il se dit, bah, le Brexit, c'est bien, faut faire la même chose, allez-y, moi, je vous soutiens derrière,
allez-y,
je vous
appuie. Allez-y, les gars. Mais en même temps, sur Angela Merkel, il faut pas se tromper, il dit, mais c'est une femme géniale, comme d'ailleurs Theresa May. C'est une femme géniale, ce pays est génial, sauf que elle a commis une erreur avec sa politique des migrants. Elle répond pas de manière agressive, la chancelière. Ah bah pas du tout, parce qu'elle sait très très bien que c'est avec lui qu'il va falloir négocier. Et toute l'Europe va se trouver dans cette situation où il va leur dire, écoutez les gars, moi je veux bien qu'on continue à se défendre ensemble, mais vous allez dépenser plus d'argent pour ça.
Alors,
et
en
ça,
même temps...
il nous a prévenu depuis quelque temps, et en effet, s'il s'agit de se serrer les coudes, s'il s'agit de prendre notre destin en main... Ça signifie que on a des efforts à faire.
Là, vous parlez de l'OTAN, parce que
je parle de tout, de l'Europe,
notamment. Voilà, mais juste avant de revenir sur les réfugiés, une chose quand même, c'est Michel Hurvoy. Donald Trump a menacé donc l'Allemagne concernant leur industrie automobile. Mm-hmm. Il a dit, moi, je voudrais taxer les véhicules allemands si c'est pas produit aux États-Unis. Mais alors là, attention, le ministre de l'économie allemande a dit, bah écoutez, c'est simple, hein, bah nous, on va taxer des véhicules américains. Mm-hmm. Et à ce moment-là, et ben ça va coûter très cher les voitures américaines. Donc finalement, on voit pas ce que gagne Donald Trump à faire ça.
Après, faut regarder l'équilibre des échanges, mais c'est sûr. Je pense qu'il a à gagner lui. On est dans de la diplomatie économique. Enfin, si on peut appeler ça de la diplomatie, on est dans un chantage économique, et il est en train d'essayer de disloquer politiquement l'Europe en agissant sur deux maillons essentiels que sont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et pour comment dire, éviter de se trouver face à un bloc européen uni dans des négociations commerciales. Donald Trump, qui est un homme d'affaires, un réaliste, un dealer au sens économique, préfère avoir 15, 20, 27 interlocuteurs en Europe plutôt que d'en avoir un seul.
Après, je pense qu'il faut faire attention. Je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, Donald Trump sache exactement ce qu'il veut faire avec l'Union européenne. Il a une stratégie qui a été sa stratégie électorale gagnante. Jouer sur la fibre populiste, jouer sur la fibre identitaire, avoir des propos qui sont quand même relativement elliptiques, relativement flous, mais assez flous pour quand même effrayer tout le monde. Est-ce que cette stratégie électorale gagnante sera demain une stratégie pour gouverner gagnante?
Je suis d'accord.
Je suis pas certaine. Et puis Donald Trump ne gouvernera pas seul.
Et il a pas l'air de bien connaître ses affaires parce qu'attribuer le Brexit à la crise migratoire,
voilà, alors c'est simple.
C'est ignorer tout simplement que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de Schengen. Donc rien que ça. Enfin, et sur l'OTAN, c'est la même chose. Oui, enfin, je veux dire.
Non, la crise migratoire a joué son rôle dans le Brexit. On peut pas dire
le contraire. C'est ce qu'on dit les partisans de UKIP, mais c'est pas ça. Vous savez très bien, François Ossinal, que c'est pas ça au final. C'est un vote.
Voyez les villes gérées par des socialistes dans le nord de l'Angleterre qui ont voté à 68% pour le Brexit. Ce sont des villes ouvrières. Et ils vous disaient bien qu'ils en avaient marre de voir l'Europe leur dicter et en plus leur envoyer du monde.
La politique migratoire britannique n'a absolument rien à voir avec l'Europe.
Exactement, voilà, c'est ça. Eux, ils se plaignaient notamment
Ils ont répondu comme ça parce que ça, c'était tout de même les interviews qui paraissaient dans les journaux britanniques.
Mais ne rigolez pas à cause de Trump, on a dit qu'il allait nous souder.
C'est une vraie chance.
Ce cas du Brexit est intéressant parce que Trump dit le Brexit c'est une bonne chose et j'appelle à la multiplication des Brexit dans l'Union européenne. Mais Trump, pour négocier demain un accord commercial avec le Royaume-Uni, doit attendre que ce Brexit soit effectif. C'est pas certain que le jour où le Brexit sera effectif, Donald Trump soit encore au pouvoir aux États-Unis.
Tout est possible. Il n'empêche qu'il place des rapports de force. Il ne fait que ça. Je vous signale qu'avec les constructeurs américains et les autres d'ailleurs, c'est par tweet qu'il leur a dit, écoutez, si vous continuez à construire des usines au Mexique et tout, moi je vais
Voir qu'il y avait beaucoup de communication. À ce propos-là, on en a beaucoup parlé ici aux Infos de France Info. Il faut dire qu'à travers Ford continuera quand même à construire des voitures au Mexique malgré tout dans une ancienne usine. Donc il faut se méfier avec ça parce que tout est dit avec Donald Trump. Christophe Lévesque.
Il me rappelle un peu Bush, je n'ai rien contre les Américains, attention, mais ils ont une connaissance quand même de l'Europe. J'aimerais bien Trump lui présenter une carte de l'Europe et lui faire poser les quelques villes sur la carte. Je pense qu'on serait extrêmement surpris. On a eu la chance d'avoir Obama qui connaissait quand même l'Europe, son histoire, qui était un mec cultivé. Qui était un mec assez brillant. Oui, mais au moins, il savait de quoi il parlait. Là, je pense que même c'est le béaba, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'Europe, il ne connaît pas.
Faisons-en une force. L'Europe est une puissance. L'Union européenne est une puissance économique. Trump nous montre là très rapidement dans cette interview comment il compte jouer. L'Europe peut s'unir pour répondre d'une voix, que ce soit du point de vue des politiques économiques, que ce soit en reconstruisant sa défense, que ce soit en parlant d'une voix unique aussi sur la question des frontières, sur la question des migrants. On a une chance avec le défi que nous lance Donald Trump.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant de l'Europe et de Donald Trump. L'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau.
Et François Hollande défend ce soir l'Union européenne. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire. Réponse aux critiques évidemment de Donald Trump dans une interview à deux journaux européens. Le président élu des États-Unis a critiqué la construction européenne et l'Alliance Atlantique. Elle ne sera obsolète que lorsque les menaces le seront devenues elles aussi à propos de l'Alliance Atlantique. Fin de citation. Une grosse commande pour Airbus. La compagnie saoudienne Flynas va acheter 80 A320 Neo d'une valeur de plus de 8 milliards d'euros aux constructeurs européens. Flynas prend également une option pour 40 autres appareils. La Corse, placée ce soir en vigilance orange, neige et verglas par Météo France, les préfectures de Haute-Corse et de Corse du Sud lancent des appels à la prudence. Limitez vos déplacements et équipez un maximum vos véhicules. La neige risque de tomber abondamment cette nuit et demain. Alerte en vigueur au moins jusqu'à mercredi minuit. Le dernier bilan du crash d'un avion cargo turc monte ce soir à 37 victimes, dont 13 enfants. L'appareil s'est écrasé sur un village kirghize. Outre les 4 pilotes de l'appareil de la compagnie ACT Airlines, les victimes sont des habitants du village. Il y avait un épais brouillard ce matin. Une erreur de pilotage serait à l'origine du drame. Qui d'Armel Lecléache ou d'Alex Thompson remportera la 8e édition du Vendée Globe? Réponse jeudi avant 16h pour l'arrivée au Sable d'Olonne. Le leader et son poursuivant sont toujours au coude à coude.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de l'interview de Donald Trump, hein, donnée à deux quotidiens européens, Bild donc pour les Allemands et The Times pour les Britanniques. Michel Hurvoy, c'est vrai que dedans, donc, il a soutenu le Brexit, hein, pendant la campagne américaine, il était pour le Brexit, pour le Leave, comme on dit. Le problème, il s'en fait ici. Alors s'il encourage d'autres Brexit comme ça, est-ce que finalement les États-Unis ont à gagner d'une dislocation de l'Union européenne?
C'est la première fois depuis qu'existe l'OTAN qu'on entend un président américain chercher à affaiblir l'Europe. L'intérêt des Américains a toujours été dans la stabilité depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont été le premier pilier de l'OTAN. Donc ce qu'il dit à la fois sur le Brexit, sur l'économie ou sur l'OTAN, en parlant de structures obsolètes, qui est financée d'ailleurs à 70% par les États-Unis, l'addition des trois... mérite quand même d'être regardé au-delà de la phrase un peu choc ou de la... Est-ce qu'il passera aux actes? Je n'en sais rien. Mais le seul fait de le dire, parce que c'est ça la politique aussi, c'est dire des choses, mais c'est évaluer leur impact sur les opinions. Le seul fait de dire est un facteur d'accélération des processus de désintégration en Europe. Et je suis désolé de contredire l'une de nos débatteuses. Je pense que la désintégration va beaucoup plus vite que l'intégration. Je suis d'accord pour dire que raison de plus, c'est l'opportunité, c'est le moment pour se serrer les coudes et pour enfin avancer en Europe. Je crains que sur la question de la défense, il faille beaucoup de temps pour construire quelque chose qui fonctionne.
Oui, Ayette Kégé, vous voulez y répondre ?
Je pense qu'il faudra aussi beaucoup de temps à Donald Trump pour remettre en cause l'accord de l'OTAN, parce qu'on remet pas en cause très rapidement en temps de paix ce type d'accords internationaux. Donald Trump, il faudra voir avec qui et comment il gouverne. Lui, il est extrêmement pro-russe. Il est très sceptique par rapport à l'OTAN. C'est pas certain que les personnes avec qui il gouverne, et on verra son futur secrétaire d'État, la position qu'il adoptera, exactement sur sa ligne. C'est un défi pour l'Europe. Je ne dis pas que l'Europe va aller vers plus d'intégration. C'est un défi pour l'Europe et c'est un défi dans lequel la France, quel que soit son prochain gouvernement, devra se positionner comme un leader.
Dans tous les pays, il y a des nationalismes à l'œuvre et je pense que ce que dit Trump est un accélérateur de ces nationalismes.
Oui, Christophe Lévesque, pour vous aujourd'hui, quand on voit ce populisme aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Donald Trump aujourd'hui, c'est du grain à moudre ?
Oui, c'est-à-dire que si c'est effectivement ça, il y a une troisième solution aussi, s'il disait n'importe quoi. Avec ce genre de personnage qui est tout à fait envisageable. Nous sommes en train de débattre dans le monde entier sur ce qu'il a dit, alors que peut-être qu'il dit juste.
Est-ce que c'est pas
quoi.
Justement un coup de pression comme un homme si d'affaires, c'est enfer.
Mais si effectivement, ce que dit Michel Hurvoy, si c'est effectivement pour réveiller le côté reptilien de tous les peuples d'Europe, le nationalisme et puis le repli sur soi, c'est gravissime. Mmh. C'est-à-dire qu'il est à un moment donné, il va falloir qu'il rende des comptes parce que c'est hyper grave ce qu'il fait.
Oui, bien sûr. François Rossival.
Il y a quand même quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous dites, Christophe. C'est que dans le langage de Trump, cette affaire de la relation avec l'Europe n'a pas bougé d'un iota. Ce qu'il vient de dire au Bild et au Sunday Times, il l'avait dit au New York Times au mois de juillet, de la même manière. Donc c'était clair pour tous ceux qui s'intéressent à la diplomatie transatlantique, il était clair que la relation allait changer, non pas sur le contenu, mais sur le fait que vous, les Européens, vous avez de l'argent, vous allez participer à la défense. Il y a des années que les Américains le disent. Mais lui, il dit maintenant, c'est fini. Comme il le dit aux Arabes saoudiens.
Est-ce que c'est viable, finalement, ce genre de relation, quand vous l'avez dit tout à l'heure? C'est économiquement parlant. Est-ce que si, d'un coup, les produits européens ou même l'industrie automobile est davantage taxée, est-ce que si nous, on taxe de nouveau les produits américains, finalement... On n'est plus avec un grand partenaire
mais
aujourd'hui.
Bien sûr, ça va établir un rapport de force. Oui. Mais bien sûr, et d'une certaine façon, comme c'est un homme qui construit tout sur des contrats, qu'il dit à Madame May ? On va faire un pacte, on va faire Thérèse un contrat, etc. Mais effectivement, l'Europe va être doit se préparer à avoir des contrats avec l'Amérique.
Agathe Kagé, on a parlé aussi, il a demandé les levées de la sanction contre la Russie, forcément. Mais une dernière chose. Donald Trump parle de la Grande-Bretagne, il parle de l'Allemagne. Même quand on est critiqué, on est toujours un peu vexé, il ne parle pas de la France. Gad Cagé, ce que ça veut dire, voilà, je veux dire que notre rôle par rapport aux États-Unis, autant parler de la Grande-Bretagne pour les États-Unis, c'est normal, mais là, de parler que de l'Allemagne et pas de la France.
Mais il ne sait pas encore où c'est.
La France n'a pas encore son futur leader, donc c'est vrai que là, pour l'instant,
parce qu'il a beaucoup critiqué la France pendant la campagne.
Il parle au leader en place pour les prochains mois dans un certain nombre d'autres pays. Après, on peut remercier par rapport à la France Donald Trump de ne pas avoir reçu Marine Le Pen en bas de sa tour.
C'est ça, exactement. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup à Gad Cagé d'être passé. Je rappelle le manifeste de votre think tank aujourd'hui, carte sur table, Génération 2040, manifeste à l'attention des candidats à la présidence de la République. Merci à Christophe à l'évêque. Alors vous, eh bien c'est une petite tournée du Sud-Ouest, hein, puisque vous serez demain à Toulouse.
Exactement.
Au casino, un bel accent, et après demain à Bordeaux au Femina. Merci d'être passé ce soir. Un petit coup d'œil à la une de West France demain, Michel Revoix.
Mais l'édito de mon collègue Laurent Marchand, un pavé dans l'Atlantique, donc on vient d'en parler, et puis la primaire suite avec François de Rugy et le Vendée Globe.
Le Vendée Globe, bien sûr.
Qui arrive jeudi.
Jeudi ou vendredi. Et François Orcival.
Comment Trump est effectivement en train de renverser la table.
Il est l'heure pour nous de retrouver Mathieu Maestrachi, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le Classico, quel est le sommaire ce soir?
Après un week-end et un dimanche pléthorique en sport, on va parler de beaucoup de choses. On va évidemment revenir sur le nouveau podium de Ligue 1, parce que la Ligue 1 est revenue ce week-end avec les irrésistibles monégasques désormais en tête. On va reparler du mercato de l'OM, de celui du PSG et du Real Madrid, qui a donc vu sa série de 40 matchs sans défaite prendre fin hier soir, c'était à Séville.
Le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.